Conversation avec Hanan Haratz. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle conversation. Vous le savez, qui dit septembre dit rentrée littéraire et qui dit rentrée littéraire dit premier roman. Et parmi ces premiers romans, je vous propose d'en découvrir un paru le 21 août aux éditions Verdier, signé Nassera Tamer, une avocate franco-marocaine installée à Paris. Dans « Allô la place », c'est le titre du livre, la narratrice, double de l'auteur, se lance à la reconquête de sa langue maternelle, la Derija, une langue qu'elle a oubliée. Et cette reconquête, ce réapprentissage, est le fil qui permet d'interroger le rapport à sa mère et plus largement au sien, d'évoquer aussi la dimension autant intime que politique de la langue et d'explorer ces lieux que tout immigré connaît ou a connu, ces lieux où le fil ténu du lien avec cet ailleurs dont on vient se maintient, j'ai nommé des taxiphones. Un roman dense par la profondeur des sujets abordés et un roman sensible, poétique, pudique dans son style. On en parle avec l'autrice Nassera Tamer, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter donc ce tout premier roman qui, pour ma part, je dois le dire, a été une très belle découverte. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais vous poser deux petites questions. Dans votre récit, je le disais, il y a des sujets très denses, il y a une part de documentaire, il y a une réflexion et une vraie recherche presque sociologique sur les taxiphones. Il y a le fil de la langue dans la construction à soi et la construction au sien. Donc, quelle est la part de documentaire? Quelle est la part de fiction? Quelle est la part d'autobiographie dans ce récit?
Alors, justement, il y a de tout ça, et mon travail, il a beaucoup consisté à trouver l'équilibre entre ces différents registres pour un peu créer un dispositif qui raconte aussi quelque chose. C'est-à-dire que je souhaitais montrer que faire le récit de soi, quand on a peu d'éléments, peu de traces de l'histoire familiale, ça peut être compliqué. Je voulais aussi montrer que autour de moi, il y avait des éléments qui permettaient aussi de raconter la trajectoire des immigrés en France, des enfants d'immigrés en France. Et il y a aussi une part un peu plus, je dirais pas fictionnelle, mais plus d'un travail presque poétique. Et donc, il y a un équilibre entre toutes ces dimensions. Et effectivement, il y a une grosse part personnelle. J'utilise la première personne, ce sont des éléments de ma vie. Je n'ai pas créé de personnage pour ce récit. Donc voilà, j'ai cherché justement à avoir ces différents registres, à les alterner pour créer un peu ce sentiment un peu hétérogène, un peu mélangé aussi dans la manière de raconter.
Et comment est née la genèse de ce livre? Peut-être aussi que cette question peut nous donner l'occasion de mieux découvrir votre parcours. Est-ce que c'est une chose que vous aviez toujours en tête? Est-ce que c'est une réflexion qui est née lorsque vous êtes arrivée à Paris? Vous dites dans votre livre avoir beaucoup fréquenté les taxiphones entre 2006 et 2009. Vous êtes avocate, mais j'ai cru comprendre que vous aviez fait un master d'écriture créative et que c'était votre projet, le projet que vous avez présenté dans le cadre de ce master. Donc, comment tout ça s'est mis en place dans votre histoire et dans votre parcours, à la fois ce désir d'écriture et la précision de votre sujet d'écriture?
D'accord. Alors, moi, je suis originaire du Havre et donc j'ai eu une formation au Havre en droit. Et pour terminer ma formation et pour commencer à travailler, j'ai emménagé à Paris. Et c'est vrai que l'écriture, elle est arrivée un peu en parallèle de ça, de manière très timide au début. J'osais pas vraiment écrire. Bon, voilà, c'était quelque chose qui m'animait, mais ça a pris quand même du temps avant que j'assume, que je montre mes premiers textes, etc. Et effectivement, l'arrivée à Paris, c'est aussi un moment où j'ai ressenti une première séparation par rapport à mon milieu d'origine familial, avec la langue d'Arija, avec le milieu ouvrier aussi de ma famille et de mon entourage au Havre. Et donc, tout ça, ça a quand même suscité des interrogations chez moi. Et l'écriture, elle est venue un peu pour comprendre ce parcours, quoi. Et donc, c'est vrai que j'avais écrit des petits textes qui tournaient autour de ces questions. Et il y a quelques années, j'avais après la pandémie, un peu envie d'avoir plus l'écriture dans ma vie, de me consacrer plus à ce projet. Donc, j'ai présenté effectivement un projet au Master de création littéraire et je l'ai intégré en 2022. Et là, j'ai essayé de penser plus une forme, comment structurer cette histoire, quoi. Et donc, voilà, ça s'est bien passé pendant le Master. Et donc, je suis toujours juriste. Alors, j'exerce plus en cabinet d'avocat depuis très longtemps, mais j'exerce plus en entreprise. Et c'est toujours mon occupation principale. C'est toujours la manière que j'ai de vivre. Mais j'essaie d'avoir quand même une place pour la littérature.
Et que reflète le choix du titre ? Alors, à la place, on peut le dévoiler, c'est le nom d'un taxiphone où vous vous rendez à Paris. Donc, c'est le nom d'une de ces boutiques. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser aussi, quand on lit ce titre, au titre du livre de Annie Ernaux, La Place, une Normande comme vous, dans lequel elle parle de la question des transfuges de classe, de ceux qui, par le savoir, s'éloignent intellectuellement et socialement de leur milieu d'origine. Et vous-même, vous le dites à un moment, c'est à la page 110, je vous cite, hein, vous dites: que faire quand on aborde la bourgeoisie mais qu'on finit par en faire partie? Fermer sa gueule est la première réponse qui me vient, question de décence. Une autre partie de moi, plus vague, un peu faiblarde mais déterminée, pense écrire. Écrire le paradoxe, écrire à l'affût, écrire le piège avant qu'il ne se referme. C'était ça votre intention?
Effectivement, dans ce titre, il y a beaucoup de choses. Il est arrivé tardivement, je l'ai choisi assez sur la fin. Et il y a une polysémie, ouais, dans cette idée de place. C'est la place dans le groupe, dans la société, dans la famille, la place vis-à-vis d'une langue. Le texte, ce récit, il a deux lignes narratives principales. Il y a ce rapport dont on a parlé avec le Darija, mais il y a aussi cette espèce de fascination que j'ai pour ces magasins, ces taxiphones, les téléboutiques, comme on dit plus au Maroc. Et donc, j'essaye dans le récit de tisser ces deux fils. Et donc, voilà, Allô la place, c'est comment, à une époque, j'allais pour appeler mes parents quand ils étaient à Casablanca, avant d'avoir un forfait mobile suffisamment intéressant. Et comment j'ai vu dans ces lieux plus qu'un magasin, c'est aussi un endroit où on peut imaginer qu'on va réparer quelque chose. Alors, on peut réparer son smartphone, mais peut-être qu'on peut réparer une relation avec ses proches, on peut réparer une langue qui est un peu oubliée. Et donc, voilà, j'ai pas du tout pensé à Annie Ernaux, même si elle est très importante pour moi, parce que j'ai été marquée par son travail. Mais tant mieux si ça fait penser à elle, parce que oui, c'est ce basculement entre une classe sociale un peu prolétaire, une classe sociale ouvrière, où les choses il y a des difficultés, et de passer dans quelque chose de où il y a une grande aisance. Quand j'ai commencé à exercer comme avocate, etc., il y a une violence, en fait, dans ce basculement. Il y a une forme d'arrachement aussi. Donc ça, c'est présent, ouais, dans mon désir d'écrire, de raconter ça, d'explorer ça.
Alors, on aura l'occasion de revenir à ce sujet du transfuge de classe et aussi de ce que représente aussi la connexion ou pas à la langue pour un transfuge de classe. Mais alors, pour dérouler maintenant les principaux points qui, moi, personnellement, m'ont interpellée dans votre ouvrage et pour un peu dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, quand on se pose la question de la place, il y a forcément la question en creux du manque. Du manque de quelque chose. Donc, est-ce que c'est aussi un roman pour dire le manque, cette double absence, pour reprendre l'expression de Abdelmalek Sayad, d'ailleurs que vous citez dans l'ouvrage, et le manque de quoi ? Est-ce que c'est le manque de lien avec les siens ? Est-ce que c'est le manque de lien avec une mémoire perdue ? Est-ce que c'est le manque de lien avec soi aussi ? Et la mère est très présente, la question de la mère, dont vous fuyez un peu les appels tout au long du livre, ce que vous dites avec une franchise déconcertante. Donc, est-ce que c'est un roman pour dire ce manque, cette double absence, et un manque de quoi pour vous ?
Alors, j'ai pas forcément une analyse complète de ce qui a poussé cette écriture. Effectivement, il y a un sentiment qui est celui de la perte, du manque, qui est lié vraiment, je pense qu'il y a une part qui est très intime. La manière dont j'ai éprouvé ma relation avec ma famille, dont j'éprouve plus généralement la relation avec les autres. Je pense que c'est pour ça que je me suis beaucoup interrogée sur cette langue que parlaient mes parents et que moi, j'ai pas forcément réussi à adopter. Donc, il y a cette part très, très intime. Mais je pense que j'ai voulu aussi le rattacher à des préoccupations plus générales, c'est-à-dire que il y a des millions de gens qui sont contraints pour des raisons diverses à quitter leur pays, souvent pour aller dans des pays d'Europe, des pays occidentaux, au Canada, et cette trajectoire-là, elle est marquée par une perte, elle est marquée par le manque. Et voilà, j'ai voulu aussi essayer de raconter ça sans être dans une approche victimaire, misérabiliste, sans non plus faire un espèce de discours politique explicite, didactique. Non, c'était ma démarche, c'était de le faire ressentir, en fait, de faire ressentir au lecteur ce sentiment de perte. Parce que je pense que voilà, les gens le ressentent, peuvent le ressentir avec la langue, avec la manière dont, enfin, j'espère, c'est mon ambition, avec la manière dont le récit est construit. J'espère qu'il y a quelque chose qui peut se transmettre de ça.
Alors, il n'y a absolument rien de misérabiliste dans votre écriture, bien au contraire. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la force de ce texte, c'est que c'est extrêmement sensible et, comme je le disais tout à l'heure, aussi très sincère. Et quand je vous posais la question sur la perte, je repense encore à un passage. J'en ai surligné beaucoup en lisant votre livre. C'est à la page 23 quand vous parlez du fait que vous vous appelez moins vos parents. Voilà ce que vous dites. Vous dites « J'ai arrêté de les appeler parce que mon petit monde des nostalgies se couche précisément dans leur voix, un timbre si familier recouvrant tout ce qui avait été perdu, tout ce que j'avais perdu, tout ce qu'ils avaient perdu. Et je voulais continuer à entendre ce petit monde dans ce qu'il avait de perdu. Avoir quitté ce monde ne l'avait pas réduit au silence, il inondait encore et tempêtait à mes oreilles. Je passe un petit peu et vous dites « C'était pour l'entendre à jamais en moi que je n'appelais plus, que je ne répondais plus, un pacte avec la perte. » Il est magnifique ce passage et il révèle cette tension entre le désir de garder ce qui a été perdu et pour mieux le garder, finalement d'en rester au souvenir et de ne pas nécessairement le recréer.
Alors oui, c'est pas évident pour moi d'expliquer parce que c'est justement là où l'écriture était très importante pour moi parce que ça me permettait d'explorer ce sentiment-là. Mais disons que, par exemple, dans le passage que vous avez lu, quand je parle du petit monde des nostalgies, c'est une référence à un un écrivain marocain, Mohamed Kherdine, qui lui a connu plusieurs exils. Il a connu le grand tremblement de terre à Agadir, il a vécu à Casablanca, ensuite il est arrivé en France dans les années 60, je crois, et la nostalgie, elle est tellement au centre des parcours des immigrés, et elle est transmise quelque part aux enfants d'immigrés. Et donc, peut-être qu'il y a ce truc de vie marqué par le sentiment de la perte que j'ai voulu exprimer dans ce passage-là.
Et qui dit perte dit fantôme. Qui dit perte dit fantôme. Et d'ailleurs, c'est une citation de Derrida que vous choisissez en incipit du livre. Et cette citation, c'est « Le téléphone, c'est les fantômes ».
C'est ça, c'est-à-dire que je trouve qu'il y avait cette idée d'être en contact avec ce qui n'est pas là, être en contact avec ce qui est éloigné, avec ce qu'on a perdu, avec voilà, ça peut être un lieu, ça peut être une famille, ça peut être voilà, une langue. Et comment, malgré le fait que ce n'est pas dans mon quotidien, comment j'arrive à vivre avec, c'est-à-dire que c'est une comme une part latente dans la vie, dans la mienne en tout cas, que bah, si cette langue, si on parle par exemple du Darija, je ne la parle pas au quotidien, je ne l'entends pas forcément, voilà, je ne l'utilise pas, elle reste là, elle reste présente. Donc c'est cette présence de fantôme, fantomatique.
Et puis des fois, des petites fenêtres qui s'ouvrent dans votre texte vers ces fantômes. À un moment, vous parlez du village de votre grand-mère maternelle. Il y a des choses comme ça qui reviennent. Quand vous parlez au téléphone avec vos parents et qu'à un moment, vous entendez les pas de votre maman qui descend les escaliers de la terrasse pour tendre le téléphone au père. Donc, il y a une reconstitution aussi à travers le fil mémoriel et le fil du téléphone de tous ces lieux que vous portez en vous et qui deviennent, par la force des choses, des fantômes.
Oui, et c'est vrai que dans le texte, il y a un jeu sur les lieux. Alors, la narratrice, elle vit à Paris, elle se déplace à Paris. Les rues du quartier où je vis sont très présentes. Et il y a des lieux qui paraissent un peu plus lointains. Il y a la ville du Havre, il y a la ville de Casablanca. Et c'est des villes qui sont un peu qui correspondent à la vie antérieure de la narratrice, c'est-à-dire que c'est des souvenirs, c'est des petites bribes, comme vous avez mentionné, mais j'ai pas été plus loin dans la description pour justement ressentir le fait que ce sont des lieux lointains. Et j'ai déjà essayé d'écrire par exemple sur Casablanca ou sur d'autres lieux du Maroc que j'ai fréquenté enfant, adolescente ou jeune adulte, et c'est comme s'il y avait quelque chose de périmé, parce que c'est je parviens pas à faire vivre ces lieux aujourd'hui, quoi, et donc ça reste un peu dans le passé.
Et vous le dites d'ailleurs à un moment que quand vous revenez à Casablanca ou au Maroc de façon plus générale, vous avez un peu de mal à vous retrouver ou à trouver votre place, et notamment parce que ça passe par la langue. Ce qui fait que j'en arrive maintenant à la question de la langue, qui est un des sujets principaux, voire le sujet principal, parce que c'est le fil conducteur en fait. C'est la narratrice, votre double, qui part à la reconquête ou dans le réapprentissage de cette langue qu'est la Darija. Mais que représente la Darija pour vous ? Comment vous définiriez le rapport que vous avez avec elle ? Est-ce qu'il est purement affectif, mémoriel, politique ou purement aussi pragmatique ? Comment vous définiriez votre rapport avec cette langue dont vous dites, je vous cite encore une fois, quand vous expliquez pourquoi vous avez envie de la réapprendre, vous dites « c'est la langue dans laquelle rêvent mes parents, si tant est qu'on rêve dans une langue et si tant est que mes parents rêvent encore ».
Alors, si je devais définir mon rapport, je dirais qu'il est complexe, parce qu'il est un peu tout ce que vous avez évoqué, et c'est tous ces aspects-là que j'ai voulu explorer. Évidemment qu'il y a une charge émotionnelle très forte, c'est l'enfance, c'est la langue dans laquelle on a pris soin de moi quand j'étais enfant, etc. Mais c'est aussi une langue qui a un statut en France qui n'est pas neutre. C'est un statut, voilà, c'est une langue qui peut à la fois être vue comme une langue d'élite quand elle est enseignée dans les grandes écoles et en même temps qui est une langue mal vue quand elle est parlée par des personnes qui sont considérées comme indésirables en France. Et moi, j'ai grandi avec cette idée que c'était une langue dénigrée. Donc, il fallait que j'aborde cette question du statut. Je ne pouvais pas parler du darija en France sans évoquer cet aspect-là. C'est la langue dans laquelle je peux essayer d'entrer en contact. Par exemple, il y a le personnage de mère dans le roman avec qui j'essaye de pratiquer. Donc voilà, c'est tout ça à la fois. Et donc, il y a aussi un aspect intéressant, c'est qu'en écrivant, je me suis aussi dit que c'était aussi une langue qui me permettait d'avoir un rapport particulier au français, parce qu'il y a une hiérarchie en France.
Et vous expliquez d'ailleurs, je crois, quand vous êtes au lycée, que vous voulez choisir l'arabe comme langue et que vous n'arrivez pas à le trouver dans la liste pour vous inscrire, que vous êtes obligé de prendre de l'italien, si mes souvenirs sont bons, et qu'ensuite vous demandez un changement, parce que la langue n'est pas disponible sur le site.
Oui, et ça dit vraiment quelque chose de la place de l'arabe en France. Et donc... J'ai fait partie de la génération qui a grandi en se disant que valait mieux investir le français, investir l'anglais, plutôt que la langue de la maison, l'arabe, ça peut être l'algérien, le tunisien, le marocain, avec un peu de honte aussi. Ah, la honte, mes parents parlent mal français, le marocain, on se moque de cette langue, en fait, et malheureusement, ça n'a pas fondamentalement changé aujourd'hui. Donc, heureusement, il y a des travaux qui existent, etc., pour exposer ça. Mais voilà, tout ça, c'était important pour moi de réussir à le travailler.
Et c'est pour ça que les sujets de ce livre sont à la fois très denses et très profonds, parce qu'effectivement, vous abordez aussi la question de la place de l'arabe en France, parfois avec une petite touche d'humour. Quand vous parlez à Maryam, on va parler dans un instant de ce personnage que vous appelez mère, et que vous lui dites « wesh shrbarak » ou je ne sais plus, mais vous commencez par « wesh » et vous dites « wesh », ce mot à la fois doux, à la fois voyou, et vous dites « on dirait qu'il s'est réintroduit en France juste pour fâcher Alain Finkielkraut ». Donc des fois, vous parlez de cette perception de la langue arabe, et puis à un moment, vous parler aussi de la distinction entre l'arabe classique que vous apprenez à un moment et la darija. Et vous dites que quand vous avez appris l'arabe classique, vous pensiez vous rapprocher un peu de cette culture qui est la vôtre d'origine, mais qu'en fait, ça vous a juste fait devenir plus arrogante. Donc là, vous aviez en tout cas le sentiment de devenir plus arrogante. Donc là, on retrouve encore une fois la question de la distance que procure un certain savoir par rapport à son milieu d'origine. Et je reviens encore une fois à la question du transfuge de classe. Quand vous utilisez ce mot que j'ai trouvé particulièrement fort, d'arrogante.
Ça, c'est un des plaisirs de l'écriture. C'est-à-dire que c'est un grand terrain de jeu. J'ai essayé quand même de m'amuser avec tout ce que offre comme possibilité la langue. Et donc, oui, il y a des moments qui font sourire avec un peu d'ironie. Des moments où il y a plus un travail sur les sonorités, les rythmes. Et c'est vrai que je voulais, à travers ces registres, ces tonalités différentes, avoir quelque chose dans la nuance, c'est apporter des nuances dans la conception qu'on peut avoir de la langue, des langues. Et par exemple, cette hiérarchie entre le darija et la fosha, c'est quelque chose qui est pas anodin. C'est quelque chose qui voilà, quand on vient d'un milieu populaire, on peut se sentir exclu du monde académique, du monde littéraire, parce qu'on ne maîtrise pas l'arabe littéral. Donc voilà, j'ai voulu mettre des nuances pour avoir un propos sur c'est quoi une langue, en fait. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça charrie, qu'est-ce que, comment on... En fait, derrière, il y a comme une politique des langues, en fait. Mmh. C'est ce qui m'intéressait.
Mmh. Donc, il y a aussi donc, il y a la dimension politique, il y a la dimension intime. Et vous dites à un moment de cette langue que vous appelez langue chimère, qui est à la fois en vous, sans être en vous, vous dites « l'arabe s'allie pour moi à l'amer », amer de amertume, amer. Mais on mmh. pense évidemment... la sonorité appelle à le voir aussi à la mère en deux mots, la maman. On n'a pas encore parlé du lien à la mère à travers la langue, mais cette phrase m'a beaucoup marquée, l'arabe s'allie pour moi à la mère, parce que moi je l'ai lu dans les deux sens. Donc qu'est-ce que ça vous avait fait de ne pas la maîtriser ou de ne plus la maîtriser et qui vous a poussé à la réapprendre? Est-ce qu'il y a une forme de désir? Peut-être que c'est un grand mot, mais de reconnaissance. Parce que je me souviens d'un passage, par exemple, où vous évoquez l'anecdote avec le joueur de football Achraf Hakimi à la fin d'un match pendant la Coupe du Monde, où devant les journalistes, il s'en mêle un peu les pinceaux. Il a du mal à dire le mot farha, farhanin. Et vous dites que vous avez vu dans le regard des journalistes, bon, évidemment, ça a été repris, on en a gentiment souri, on s'est gentiment moqué, mais vous y avez vu une forme de tendresse, comme une façon de lui dire... À lui et à travers lui, à tous les enfants de l'immigration, ne vous inquiétez pas, même si vous ne la parlez bien, vous êtes des nôtres, vous êtes proches de nous. Et vous dites que vous vous êtes reconnue dans le regard de Hakimi à ce moment.
Mmh. Effectivement, il y a ce sentiment-là, il existe, je pense, pour beaucoup d'enfants d'immigrés, d'une forme de reconnaissance. J'ai lu beaucoup de témoignages où il y a souvent l'anecdote du retour pendant les vacances d'été où les cousins, les cousines se moquent parce qu'on ne sait pas bien parler. Bon, ça, c'est un grand classique. Et quelque part, c'est léger. En même temps, c'est une petite blessure aussi de voir que on n'est pas en mesure de continuer. Comment exprimer ça? Ça peut être vécu comme une petite blessure parce qu'on voit qu'il y a une distance avec sa famille, ses parents, etc. Et il y a toujours le désir d'être reconnu, d'être accepté, d'être accueilli. C'est très présent dans le texte.
Et de se relier.
Et en plus, les Marocains, ils ont... Pardon.
Non, allez-y, pardon.
En plus, les Marocains, ils ont un sens de l'humour qui est absolument incroyable, qui fait que un rien peut donner lieu à des blagues. Et le moindre mot, ça peut être très... il y a une forme d'humour qui est propre aux Marocains, qui est sur la langue. Peut-être que je l'ai un petit peu aussi.
Et d'ailleurs, quand vous parlez du lien avec la famille et de la reconstruction, à un moment, c'est ce que vous dites aussi quand vous parlez de votre besoin de réapprendre ou de cette envie de réapprendre la langue. Vous dites, page 37, « Je dis que cette langue, je ne veux pas la perdre tout à fait, que ça serait dommage. J'aimerais dire qu'il y a déjà eu trop de pertes depuis trop longtemps, qu'il y a des limites à la perte, que ça serait la perte de trop, la perte qui ferait que je perdrais tout et me perdrais moi-même. Je dis qu'avec ma famille, on vit séparés, on est séparés. J'aimerais dire que parler cette langue, ça serait comme recoller les morceaux ou retrouver quelque chose. » Donc là, on revient à la question de la perte et du besoin de recombler cette perte. Et donc, pour combler cette perte, vous décidez d'apprendre la darija ou de réapprendre la darija. Alors, pourquoi vous avez choisi une application? Vous parlez de l'application Tandem, qui vous met en lien, ça, d'après ce que j'ai compris, avec quelqu'un dans un pays qui parle cette langue, et donc d'avoir ces échanges. Et donc cette personne, ça va être Mariam, que vous appelez mère dans ce récit. Et là encore une fois, on pense à la mère, M-E-R-E. Et c'est une figure mère qui synthétise les trois... j'ai envie de dire personnage du livre, à la fois la question de la langue, puisque vous échangez avec elle en darija, la question du téléphone comme lieu de la recréation de cette connexion avec les siens et avec cet ailleurs dont on vient, et aussi le lien avec votre maman. Que représente, en fait, pourquoi avoir choisi une application et que représente la figure de mère dans votre récit?
J'ai pas beaucoup choisi, hein. C'est plutôt que j'ai par hasard découvert cette application à un moment où j'avais une envie de pratiquer Darija, que ça me, voilà, j'avais une époque où j'étais j'avais une motivation pour apprendre un peu plus cette langue. Et donc, par hasard, je suis tombée sur cette application et c'est là où je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être, ça m'a donné envie d'écrire, c'est-à-dire que découvrir l'application, les premières conversations avec mère, ça m'a poussée à écrire. Donc, c'est dans ce sens-là. Et puis effectivement, c'était une belle rencontre, c'est-à-dire que ces échanges, ils ont permis beaucoup de choses. Ils ont permis effectivement de renouer avec la langue, mais c'était aussi des moments où je me suis interrogée sur moi-même, ma place en tant que enfant d'immigrant en France, sur comment le Maroc avait évolué sans que moi j'en sois. Moi, je me suis éloignée beaucoup de ce pays pour des raisons personnelles, et du coup, ça, comme si j'avais eu, je l'évoque un moment dans le livre, c'est comme une mise à jour pour moi de voilà comment vit une jeune femme au Maroc, à Casablanca.
Mélim, qui est une jeune maman, ouais, qui travaille, exactement, mais qui aussi est un peu en miroir de tout ce qui fait votre récit, à savoir la question de l'exil, etc., qui elle-même veut partir au Canada et qui finit par partir au Canada.
Exactement. Et c'était intéressant parce que ça a pu ça m'a par exemple poussé m'interroger sur le moment où ma propre mère est partie du Maroc, est partie de Casablanca pour la France. Voilà, c'est vraiment une conversation assez simple, hein, vraiment banale. On se donne des nouvelles, ça va, comment ça se passe au travail. Mais même si ça paraît très anodin, très simple, ça a soulevé beaucoup de sujets, pas seulement personnels, quoi. C'est vraiment et ça m'a poussé à une réflexion, voilà, sur ma propre démarche.
Vous vous dites même à un moment,
parce que ça m'a un peu bousculé. Oui.
Vous dites vous-même à un moment, est-ce que ce serait moi si mes parents n'avaient jamais quitté le Maroc?
Oui, voilà, ce genre d'interrogation qui, en fait, a déplacé un peu mes perceptions, en fait. Et en ça, je suis très heureuse de l'avoir rencontré. Et donc, voilà, ça, c'est une part du récit qui est importante.
Oui, c'est un des fils de vos échanges avec Mariam, où vous vous confiez aussi beaucoup l'une à l'autre. Et il y a une dimension aussi presque thérapeutique à cet échange avec Mariam. Et le fait que vous l'appeliez mère, on peut y voir peut-être la question de votre rapport à la mère. Et là, j'y viens, parce que vous parlez beaucoup du silence avec vos parents, qui sont liés à la distance. Vos parents ont quitté Le Havre pour s'installer à Casablanca. Et... j'ai trouvé ça très touchant, tout ce que vous dites finalement sur ce silence. Et ça me pousse à vous demander, pourquoi est-ce que ce lien se distend? Est-ce que c'est uniquement à cause de la non-maîtrise de la langue de votre part? Est-ce que c'est aussi lié à cause du sentiment d'être un transfuge et que peut-être on est tellement éloigné de la façon de penser ou de voir le monde que finalement on n'a plus grand-chose à se dire? Et là, je vais citer un petit passage, c'est à la page 67. Voilà ce que vous dites, c'est très beau, hein, vous dites... Et puis l'écart n'empêche pas l'amour, il est sa condition. Dans cet espace qu'on ne peut pas combler, les eaux rugissent, en trompe se fracassent, alors on ne s'entend pas. On ne peut faire que silence, on ne peut dire que de petites phrases convenues, polies, polissées, sitôt prononcées, sitôt englouties, à peine entendues. On a eu un jour de neige cette année, il a neigé aussi chez vous? La même phrase, répétée une fois, deux fois, six fois. On a eu un jour de neige cette année, il a neigé aussi chez vous? Toute phrase sortie du scénario, aussitôt annulée, avalée. Redire tout pareil, tout le temps, la météo, la fatigue, le regret, quelques souhaits, au revoir. Ce sont ces petites phrases, embarcation de fortune, que je n'aime pas. Ou alors, c'est d'entendre la mort d'un peu trop près. J'ai pleuré en lisant ce passage. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Donc, ça me pousse la... Voilà, même s'il donne déjà beaucoup de réponses, mais les raisons pour lesquelles ce lien se distend.
C'est un peu tout ce que vous avez évoqué. C'est vraiment des raisons personnelles. Je ne tiens pas forcément à en parler comme ça, parce que ce qu'il y a dans le récit, c'est des morceaux en fait de cette histoire personnelle. Donc voilà, je tiens à garder que les morceaux. Après, ce qui est intéressant, c'est en termes de travail d'écriture, c'est que cette question du rapport aux parents, du rapport à la mère, de l'histoire familiale, c'est très présent dans la littérature. Et donc, moi, ça m'a permis aussi de trouver ma manière à moi, de m'amuser aussi avec cette thématique et donc, par exemple, il y a deux passages, je crois, sur la question du nom de famille et de raconter un peu c'est quoi cette origine du patronyme et de ce qu'on retrouve dans beaucoup de textes de littérature. En plus, en contexte colonial avec l'état civil qui arrive et tout ça. Voilà, ça c'est un exemple de ces appels téléphoniques qui ne fonctionnent pas lorsque j'essaye de joindre ma mère ou lorsqu'elle essaye de me joindre aussi. C'est une forme de m'approprier le récit familial et la figure maternelle en littérature. Donc, voilà, c'est un peu aussi comme souvent dans le cadre de l'immigration maghrébine, une histoire familiale où il y a assez peu de traces, assez peu de récits. Enfin, il y a quelques récits dans ma famille, mais globalement, j'ai quand même très peu d'éléments concrets sur l'histoire de ma propre famille. Mmh. Et du coup, c'est comment écrire avec quelques traces et faire ressentir en fait justement ce manque de récit quoi.
Oui, et ce silence.
Voilà, y a un peu tout ça. Et effectivement, pour moi, ma relation personnelle avec mes parents, oui, il y a des éléments que vous avez évoqués, cette distance à la fois géographique, il y a culturelle, générationnelle,
linguistique.
Il y a quand même beaucoup d'éléments.
Mais en tous les cas, ouais, vous exactement. En parlez avec, c'est très franc et très, voilà, c'est extrêmement franc et en même temps extrêmement doux la façon dont vous en parlez. Alors, il y a un autre personnage, entre guillemets, principal aussi de votre livre, qui converge pour nouer tout ce fil de la langue et du lien à soi et à ses origines, c'est les taxiphones. Donc, ces lieux, ce qu'on appelle les téléboutiques, vous l'avez dit, au Maroc. Vous dites, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, que vous les avez beaucoup fréquentés entre 2006 et 2009. Vous avez même cherché à les filmer. Vous citez aussi un travail de la réalisatrice Isa Genini, qui a fait un film sur ces lieux à travers le monde. Donc, c'est un vrai sujet de curiosité pour vous. Comment vous avez réussi... D'abord, pourquoi cet intérêt pour ces lieux, et comment vous avez réussi à les intégrer comme l'objet aussi d'une quête ?
Alors, il y a d'abord le côté très pratique de joindre mes parents lorsqu'ils étaient allés au Maroc. Ça, c'est le premier contact quand je suis arrivée à Paris. J'avais aussi eu quelques expériences lorsque j'étais à Casablanca pour joindre la France. Et assez vite, en fait, je sentais que ça ne se limitait pas à l'aspect pratique. Pour moi, ces lieux, ils représentaient autre chose. Et c'était ce que j'évoquais au début. Ce lieu où il y aurait la possibilité de renouer avec euh, avec les autres, malgré la distance, malgré le temps, où on peut. Et en même temps, c'est très local, c'est le petit commerce de proximité. Il y en a dans toutes les rues des quartiers populaires. Donc, c'est aussi un lieu où on répare les choses. C'est un lieu. On parle plusieurs langues, voilà. Il y avait, ça représentait pour moi beaucoup de choses qui me préoccupaient. Esthétiquement, c'est des boutiques que je trouve fascinantes, avec tous ces les noms des magasins, les vitrines où il y a tout un tas d'objets farfelus. Ça tourne autour de la téléphonie, mais il y a tout un tas d'autres choses. Donc voilà, c'est un peu la globalisation, la proximité, tout ça à la fois. Et donc j'ai essayé de trouver une manière de restituer ma fascination pour ces lieux. Et donc j'ai essayé de reconstituer certaines vitrines parce que je voulais pas être intrusive, aller interroger les gens. Je pense que c'est une manière de montrer que j'ai une attention pour ces lieux, mais en restant d'une certaine manière à distance, respectueuse aussi. Donc voilà, je pense que il y aurait eu, enfin, je suis passée par d'autres étapes de travail. J'ai pris des photos. Enfin voilà, j'ai tourné autour, en fait. J'ai tourné autour de ce motif, de ces lieux pendant longtemps. Et je me suis documentée. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a tout un travail. Un peu de recherche et d'expérimentation autour de ces lieux.
Oui, et c'est ça qui donne l'aspect, notamment sur ce volet-là, qui a un côté très documentaire, parce que vous dites être allé chercher, est-ce qu'il y avait eu des articles qui avaient été écrits à certains moments sur ces lieux-là. Donc, vous citez quelques articles, je crois, du journal La Croix et d'autres. Mm-hmm. Donc, il y a un vrai travail de recherche documentaire que l'on sent. Et puis, à la fin de chaque chapitre, pour clore le chapitre, ce sont les vitrines que vous reconstituez, parce qu'on voit le nom d'un lieu et puis plein d'écrits par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, des Western Union, ce qu'ils vendent. Donc graphiquement dans le livre, on ne s'y attend pas au début quand on finit un chapitre et puis on tombe dessus et puis en fait vous avez fait le choix de clôturer chaque chapitre par ce rappel de ces lieux.
Oui, alors j'ai pas forcément pensé à une structure par chapitre, mais c'est possible de le lire comme ça. Et pour compléter ce que je disais, il y a la question aussi du téléphone, plus généralement, et du taxiphone et du téléphone, ça a une place très importante dans les trajectoires des personnes immigrées. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai cette obsession, c'est que voilà, il y a un lien très fort et il y a par exemple dans le travail de documentation que j'ai fait, voilà, j'ai pu lire des articles de sociologues sur l'usage du téléphone par les personnes immigrées, donc soit il y a 30 ans, mais aussi aujourd'hui. Et pour rebondir sur le travail de Sayad que vous évoquez, il y a un point qui revient encore aujourd'hui dans ces études, c'est que quand on a ce parcours de migration, qui est souvent très difficile, dans le rapport qu'on garde avec sa famille, qui est restée au pays, au téléphone, souvent on ne dit pas les difficultés, on ne raconte pas ce qui ne marche pas, les humiliations, et on garde, et même dans l'usage des réseaux sociaux, on ne veut pas casser cette idée que on part pour des bonnes raisons, on part pour une vie meilleure, on part pour réussir, et du coup il y a cette idée du mensonge que j'avais retenu dans ma recherche et que j'ai essayé d'insérer dans le récit. Et donc voilà, il y a ce lien, être immigré, pouvoir téléphoner, pouvoir avoir accès à une carte SIM, pouvoir avoir un téléphone, c'est vraiment très fort comme relation.
Alors, on va pas en dire plus sur ces lieux. On va laisser nos auditeurs découvrir aussi toute la richesse de ce que vous développez sur ces endroits et puis plus largement sur notre rapport à ces outils de communication. Il y a un passage aussi où finalement vous êtes vous faites partie de cette génération qui a été témoin du passage de ces taxiphones à des petits mobiles, à des applications qui permettent d'avoir une communication plus facile. Et vous donnez aussi toute une analyse de ce que ça a pu changer dans la façon de communiquer. Donc, je laisserai nos auditeurs découvrir tous ces passages. J'aimerais terminer maintenant, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps, le temps passe si vite, sur la question du style. Je le disais, il y a beaucoup de sensibilité, de pudeur, de poésie dans votre écriture et en même temps beaucoup de d'honnêteté hein, un peu abrupte, et vous le revendiquez. Je vais citer un passage, encore une fois très beau, où vous parlez de comment vous avez envie d'écrire, et vous citez les Chirettes, ces musiciennes marocaines. Vous dites « Je me dis que j'aimerais écrire comme elles chantent, écrire comme un scandale, comme une chef qui détache ses cheveux sur ses épaules, qui a du coffre. Écrire d'il y a longtemps, de ce qui reste d'avant, d'avant les bidonvilles, les ferries, les chantiers, les HLM, le chômage, le mépris. Écrire ce qui ricoche de montagne en montagne, écorche l'âme, fait corps avec la roche depuis on ne sait même plus quand. Je passe un peu, écrire comme une chéra, le cœur bien accroché, qui tient la distance, qui se contrecarre du contremaître, qui ne lâche rien. Écrire en ultrason la joie sourde, la colère aiguë, écrire pour venger les voix tues. » Comment vous réussissez à maintenir cet équilibre dans votre style entre cette écriture qui a du coffre, comme vous dites, et cette sensibilité, cette poésie que l'on sent à chaque ligne?
Ouais, je ne saurais pas répondre à la question. Je pense que ça correspond à ma manière de percevoir les choses, à ma sensibilité. C'est-à-dire que je pense que l'alternance est intéressante et raconte quelque chose de justement, pour moi, à certains moments, sur certains sujets, il y a une nécessité d'être comme une chéra, c'est-à-dire d'avoir une puissance et de dire les choses précisément et fortement. À d'autres moments, je préfère être plutôt dans l'implicite. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans le fait d'alterner, de travailler sur les différentes possibilités dans les manières de raconter. La chira, c'était pour moi la figure de la poétesse aussi, parce que les textes, ils sont importants, ils sont riches, ils sont inventifs. Je comprends pas forcément tout, mais j'essaie d'écouter, de décrypter certaines choses. C'est attirant comme manière d'utiliser la langue et une inspiration aussi.
Et puis le retour à cette culture justement à laquelle vous vous rattachez par l'apprentissage de cette derija. Merci beaucoup Nassera Tamer d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette conversation. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Allô la place, ça vient de paraître aux éditions Verdier et je ne peux qu'encourager nos auditeurs à aller le découvrir. C'est votre premier roman et j'espère pas le dernier.
Merci beaucoup, Hanan.
Merci, à très bientôt.
Merci, au revoir.